donc nous voulons entendre l'enseignement du Saint-Père. Nous voulons savoir des choses précises pour savoir, non pas que ça existe, ce que c'est que la responsabilité, ce que c'est que l'innocence divine originelle, mais on voudrait savoir comment prendre possession du royaume. Et c'est pour ça qu'on est là un petit peu. Pour savoir comment on fait. Voilà. C'était l'introduction. Et donc, maintenant que vous savez ce que c'est, si vous ne savez pas comment on fait, là, je ne sais pas, c'est à vous de poser des questions. Ça, on appelle ça la goutte de lait chez nous. La goutte de lait. C'est, voilà le sujet, c'est ça. C'est, je peux vous lire, hein, quelque part. 6 février 1980. Je vais prendre la voix du Carole Wojtyla. C'est des passages, hein. Il y a 5000 pages, genre. Une fois la volonté d'amour de l'homme saisie dans l'innocence, retrouvant cette innocence originelle du corps, elle retrouve dans son cœur, elle se trouve facilitée à pratiquer l'échange du don du corps selon la masculinité et la féminité. L'échange des dons, l'innocence originelle du corps selon la masculinité et la féminité s'exprime dès l'intérieur de manière virginale comme don de la personne dans l'unité de la chair. C'est l'innocence réciproque du corps dans la signification sponsale de la nudité de l'homme et de la femme. La nudité, ça veut dire c'est limpide, c'est contemplatif et c'est virginal. Il n'y a rien d'extérieur. Rien d'extérieur. Cette innocence intérieure qui a assumé en elle la rectitude d'intention, la pureté du cœur, selon l'innocence donnée par Dieu dans la signification sponsale du corps, consiste à recevoir l'acceptation réciproque de l'autre en correspondant à l'essence du don intérieur de l'autre. Ainsi, les dons réciproques réalisent et créent les mondes nouveaux de la communion des personnes dans l'unité sponsale de la nudité. Dignité de l'homme. Et la différence avec l'animal, la différence avec Jacques Lang, la différence avec le couple. Dignité, parce que Dieu, dans le principe originel, veut l'homme, homme et femme pour lui-même. Écoutez bien cette phrase qui vient ici, que j'ai mis là parce que on doit la savoir par cœur, il faudrait la mettre sur le frontispice de tous les lits conjugaux, de toutes les chambres, de tous les hôtels de l'actuation sur nature responsable. L'innocence est donc une participation morale à l'acte éternel de la volonté de Dieu. Ça, faut savoir par cœur, ça. L'innocence est donc une participation réelle à l'acte éternel de la volonté de Dieu. Si tu retrouves l'innocence originelle du corps, dans la liberté du temps, sorti des mains de Dieu, tu possèdes la nature humaine tout entière. Tu es emporté, j'allais dire, dans la terminale créateur, la cause finale de Dieu, sur l'ensemble de l'univers. Et tu reçois l'autre comme don, dans l'intérieur de ton don. Alors tu vis l'innocence, la signification sponsale de ta solitude. Et du coup, la nudité intérieure, la contemplation virginale de l'unité des deux, ne porte aucune ombre, pas la moindre ombre extérieure, pas la moindre influence extérieure. Et cette participation à l'innocence réalise une participation divine, morale et réelle à l'acte éternel de la volonté de Dieu, au mouvement éternel d'amour. C'est une participation directe de l'intérieur, dans l'intériorité de la matière responsable du corps et de l'unité des deux. Facile à comprendre comme un mot. Il n'y a que les hippopotames qui ne comprennent pas ça. Non, pas vous. Vous êtes... Il y a longtemps que vous avez vu ça. Les contraires de cet accueil de l'autre comme don dans la participation réelle à l'acte éternel de la volonté de Dieu seraient de recevoir l'autre comme objet, réduire intérieurement l'autre comme un objet pour moi serait le début. Constitue le début du méchant, le début de la honte, le début de la honte, le début et l'origine de la menace contre le don dans notre intimité personnelle. La réduction de l'autre à l'objet, c'est le méchomisme, l'inversion de l'accueil de l'autre dans la nudité contemplative de la participation éternelle dans l'au-delà de l'unité des deux, du mouvement éternel d'amour de Dieu, l'acte éternel. Dès que vous êtes dans l'au-delà de l'unité sponsale et que vous palpitez corporellement dans l'intérieur de cette palpitation intérieure de l'intériorité de l'unité sponsale, vous êtes dans la participation du mouvement éternel d'amour primordial de Dieu. Je dis bien de l'amour primordial de Dieu. Ce n'est pas encore surnaturel. Le mariage doit aller à partir de là jusqu'au monde surnaturel, de la transformation royale du monde. Et ceux qui ne passent pas par là participeront nécessairement au méchum, c'est-à-dire à l'inversion métaphysique de l'humanité tout entière. Voilà le message Jean-Paul II, une heure par semaine pendant 5 ans. Avec des détails extraordinaires. C'est dommage qu'il n'y ait pas des petites explicitations dans les notes de la famille, par exemple. Ce message Jean-Paul II. Il n'en faut pas beaucoup, vous savez, qui vivent ça, pour faire exploser les champs morphogénétiques freudiens dans la civilisation occidentale. Peut-être que s'il y en avait peut-être une petite, je sais rien, je sais pas, une poignée qui vivait ça, ça ferait exploser tous les champs morphogénétiques méchomiques dans toute la civilisation occidentale, de la sonnerie, de la souillardise, de la sponsorité vécue dans l'inversion, la réduction à l'objet, du couple. Le couple, c'est le début du méchant. Ah, oh, mon couple va mal, ben heureusement. À chaque fois, oh, vous savez, mon couple va mal, mais c'est pas mal. J'espère bien. Un couple, ça peut qu'aller mal. C'est un méchôme, le couple. C'est une abomination, le couple. C'est la sponsalité qui fait la signification donc sponsale de la différenciation sexuelle de l'homme et de la femme dans la virginité de l'unité en une seule chair. Je dis bien en une seule chair. Et il y a une voie d'accès pour ça. Et si on ne passe pas par leur raison, c'est impossible. Vous pouvez faire des milliards de dévotions. Moi, j'en connais des gens qui font des neuvaines, des Sainte-Brigitte, des machins, le rosaire, 5 rosaires par jour, plus je sais pas quoi, plus la neuvaine au petit roi de Prague, plus le machin, tout ce truc. Et alors, je dis... Et ils sont encore dans 50 ans après, ils sont toujours dans la réduction halogène. Ils sont toujours dans la réduction à l'objet. Toujours. Tu fais oraison, c'est différent. Je dis pas qu'il faut pas faire les orations Sainte-Brigitte. Faites-le une année et puis voilà, on n'en parle plus.
Et Sainte-Brigitte, c'est une oraison?
Oui.
Donc, tu peux les dire.
Oui, faites-le une année, comme ça, c'est bien. Parce que, comme ça, grâce aux oraisons de Sainte-Brigitte, vous faites une année, c'est quelque chose d'intéressant, je reconnais que moi je l'ai fait, tant que vous voyez. Je vais pas dire, faut pas le faire. J'ai pas méprisé. Et pourquoi? Parce que vous avez une promesse solennelle de l'Église. Je dis bien de l'Église, c'est pas un message de Sainte-Brigitte. De l'Église, comme quoi, si vous faites les oraisons de Sainte-Brigitte pendant un an, vous aurez toutes les purifications qui vous permettent d'accéder à la cinquième demeure à la fin de l'année. Mais une fois que vous êtes à la cinquième demeure, le reste du travail est à faire par Dieu. Donc rajouter les oraisons de Sainte-Brigitte là-dessus, ça veut dire que vous ne croyez pas à la promesse de l'Église sur les oraisons de Sainte-Brigitte. Donc il aurait mieux valu que vous ne le fassiez pas, parce que si vous les faites sans croire aux privilèges de grâce qui y sont attachés, ça veut dire que vous ne les recevez pas, parce que vous les recevez par la foi. Donc si vous continuez les oraisons comme ça sans vous arrêter, en surajoutant par-dessus des couches d'autres dévotions, puis d'autres dévotions, puis d'autres dévotions, puis d'autres dévotions, ça veut dire que, voilà, hein, c'est le fer à repasser. Hein. Ça devient un fer à repasser métapsychique de dévotion, puis c'est tout.
Et puis, hein?
Alors vous entrez. Ah oui, c'est difficile, bien sûr. Mais je ne parle pas des oraisons. Les oraisons, quand on parle d'oraisons, je ne parle pas des oraisons. Sainte-Brigitte était suédoise.
Ah oui?
Je parle, moi, de la France, de l'oraison en France. Pas de l'oraison suédoise, l'oraison du nouvel Israël de Dieu. L'oraison de l'école française. L'oraison transformante. Alléluia. Ça intéresse l'enfant Jésus, dans l'innocence. Originelle de l'enfance, originelle dans le Père qui nous crée, dans le Saint des Saints d'innocence. Et je trouve les noces avec ça. Saint Thérèse a dépassé Saint Jean de la Croix, dépassé complètement Saint Thérèse d'Avila. Mais tout en intégrant et en assumant parfaitement, complètement, les sept demeures et les vives flammes de l'amour. L'oraison de la France. Il ne faut pas l'oublier, Jeanne et Thérèse, ça va ensemble. Hein. C'est les deux patronnes de la France. Vous lirez, c'est pas compliqué. Sponsorité de mes... Voilà, pas beau ça. Enseignement du Saint-Père. Explicitation par un sanglier même. Même les sangliers comprennent, vous voyez. C'est pas beau ça. C'est génial. Ce qui veut dire qu'à l'origine, si on ne veut pas, si on accepte de ne pas rentrer, s'approfondir, s'engloutir, se pourrir, se méchamiser dans l'esprit du monde, dans l'esprit de la chose publique, si on veut bien rentrer dans la royauté, la vocation des fils de la France, des fils du royaume de France, des enfants du roi, dans notre royauté sacerdotale, prophétique, la maîtrise du temps et de l'univers. Alors à ce moment-là, on fait et on apprend comment on fait. Comment on fait pour retrouver dans l'origine ce lieu en nous d'innocence divine triomphante, où il n'y a pas de honte à exister dans l'intériorité d'un corps, appelé à la sponsalité, à une vocation sponsale d'éternité et de participation au mouvement éternel d'amour de Dieu. Je m'excuse, mais ça, C'est pas compliqué, hein. Faites sept fois un acte qui dure seulement 3 secondes, qui vous permet de retrouver ça, de prendre possession de ça dans une journée. Faites ça pendant 9 mois. Je vous affirme que l'échange du don et d'accueil du don dans le corps, dans l'unité spontanée, en une seule chair, sera parfaitement virginal. Et que la réalisation en une seule chair de l'au-delà de la signification sponsale des deux, dans une nouvelle signification sponsale, qui n'est ni celle de l'un, ni celle de l'autre, ni de l'au-delà de l'unité des deux, sera là. Et le corps lui-même modifiera tous ses champs morphogénétiques dans une signification sponsale qui est totalement corps, vous me placera corporellement dans une virginité délivrée. Totalement, mais totalement, totalement libéré de toutes les séquelles du péché originel. Une fois installé là, il n'y a plus le moindre ombre de concupiscence de la chair. La plus moindre ombre de concupiscence, de vanité de choses secondaires dans l'unité des deux. Ni la plus moindre ombre de concupiscence d'orgueil, de concupiscence de l'esprit. Une humilité totale. Comme l'époux qui s'efface dans le sein de l'époux pour produire l'émanation du Saint-Esprit éternellement dans l'incré. C'est une participation directe, directe. Et ça y est, quand vous serez là, vous serez dans la matière du sacrement de mariage. Ça, c'est naturel, ça. C'est naturel. C'est pas surnaturel. C'est naturel. Même si vous ne voulez pas être chrétien ou surnaturel, en disant « moi, ça naturel me fatigue hein », soyez au moins naturel. Soyez au moins naturel. Chaque être de vie, bah, il respecte les lois de sa nature, non? C'est vrai, tout à l'heure, c'est merveilleux. Ils respectent les lois de leur nature. Soyons au moins naturels, c'est ça le message du Saint-Père. Soyez au moins naturels. Pas méchamiser. Faites des efforts pour aimer l'autre, faites des efforts pour lui pardonner, faites des efforts pour se donner, des efforts pour vous anéantir, pour disparaître. Faites des efforts, des efforts, des efforts. Vous espérez qu'il y aura la réciprocité des efforts de l'autre côté en disant « Oh, avec 15 ans que je fais des efforts et l'autre il fait aucun effort. » Ah ça, c'est la vie du couple, ça. Ça sert à rien. C'est la vie du couple, ça. Moi, je vous assure que si je m'étais marié, hein. Je serais été extraordinaire. Ah, mais si je m'étais marié, j'aurais suivi ça au millimètre. Au milliardième de millimètre, j'aurais suivi ça. Non, pas ben, pour pas être son, non. Ben, c'est stupide, les gens se marient, ils suivent pas ça au millimètre. Je comprends pas. Ils se marient, ils mettent la tête dans le bourbier. Un mélange de vomi, de caca, de pipi, pas ça. Ils se mettent là-dedans en disant, je vis de la sponsalité. C'est pas de la sponsalité, c'est du couple. Au millimètre, il faut suivre ça. Et c'est extrêmement facile. 3 secondes, 7 fois par jour. Vous n'avez pas besoin de l'autre pour vivre ça. Vous n'avez pas besoin de la présence physique de l'autre pour vivre ça 7 fois par jour. Mais une fois que c'est mis en place, voilà la maîtrise, la reprise en main de l'innocence originelle visible du corps et la signification contemplative à travers les airs de la réciprocité de l'échange de l'accueil du temps dans la matière corps. C'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire de vivre ça. D'ailleurs, ceux qui j'en connais quand même quelques-uns parce que ce document quand même, il y avait 8 ménages quand même, hein, philosophes, métaphysiciens et théologiens. Et marié. C'est pas sorti de. Il me dit, mais c'est évident que ça change tout. Ça n'a plus rien à voir. Dès que c'est à partir de l'innocence originelle. Ça n'a plus rien à voir. Il suffit qu'il y en ait un des deux. On n'a pas besoin de penser qu'il y ait deux. Un des deux, ça suffit. Donc à l'origine d'Adam et Ève, dans l'innocence divine d'Adam et Ève, il n'y avait pas de honte à être dans un corps. Hein. On disait, mais notre esprit qui tombe dans un corps, tu te rends compte le truc, la vision nietzschéenne, tu vois, notre esprit qui tombe dans un corps. Ah, la vision diabolique, c'est un esprit tombe dans un corps. Lucifer dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Lucifer qui se dit, mais attends, moi j'ai pas envie de tomber dans un corps. J'aime bien les hommes, mais j'aime pas ça, je voudrais pas que ça tombe dans un corps. C'est honteux quand on est un esprit pur de rentrer dans un corps. Le corps, c'est pas beau, c'est plein de poils. Comme dirait Père Emmanuel, ça pue. Il dit, mais ça pue, mais c'est... Non, ta gueule. C'est vrai, la vision du corps, on est quand même, la France, le royaume de France, il a été bombardé, hein, pas que par la révolution. Le jansénisme, ça fait du mal. Hein. Ça fait du mal. Hein. Et le verbe est devenu chair, vous comprenez, et ça a été sa gloire, ça a été son honneur, ça a été sa joie, ça a été son bonheur de pénétrer ce mouvement d'amour éternel de toute sa divinité incrée dans la signification sponsale de son corps. Je m'excuse de dire ça, mais Jésus n'était pas une gonzesse. Hein. Jésus était un homme. Il n'avait pas honte d'être un homme. Il n'avait pas être intérieurement le verbe de Dieu, c'est-à-dire l'épousé incréé de Dieu dans la masculinité du corps, en un mariage hypostatique parfait. Il n'avait pas peur, il était en plénitude de sponsalité dans l'échelle de l'accueil du don. Il a donné au corps et à la sponsalité du corps une dignité divine, directe, sans voile. Et il structure, c'est le corps qui donne à l'âme sa vocation au mariage spirituel. Si vous faites oraison vers le mariage spirituel et que le corps n'est pas intégré dans cet admirable exercice, je crois que nous ne saisissons pas, comme l'explique le Saint-Père, la finalité de la Créateur de Dieu sur nous, dans le Christ Jésus notre Seigneur. La sponsalité, c'est l'essentiel du monde nouveau. C'est la priorité absolue du monde nouveau. Dans la reprise en main du corps originel du Saint des Saints, de notre innocence, et lorsque, vous voyez, c'est ça qui est très très beau, je trouve personnellement, bon, à regarder, à contempler, parce que, bon, l'Immaculée Conception, c'est 9 mois avant sa naissance. Elle est créée dans la plénitude de grâce, son Immaculée Conception, dans un corps qui a une signification sponsale pour toute sa vocation sur la terre et dans les cieux. Elle n'a aucune honte, ça. Et en plénitude de lucidité, plénitude de l'esprit d'intelligence, plénitude de l'esprit de sagesse, plénitude de l'esprit de science de Dieu, plénitude de son amour filial, même surnaturellement parlant, puisque c'est plénitude de grâce surnaturelle vis-à-vis de la paternité incréée de Dieu, plénitude de tout ça, les 7 à la fois, et tout ça, ça palpite dans sa mémoire, dans sa liberté du don, elle se livre dans la liberté du don, elle sait qu'elle est inscrite dans le livre de vie, dans l'autel de son unité sponsale avec quelqu'un. Elle ne peut pas lui mettre un nom, puisqu'elle n'a pas encore de cerveau. Mais elle s'inscrit immédiatement dans la signification intérieure de son don originel, 9 mois avant sa naissance. Hein. Dans l'innocence divine originelle, inscrite dans le livre de vie de sa moitié sponsale. Et elle vit tout de suite, immédiatement, la plénitude de l'au-delà de l'unité des dieux avec lui. Vous croyez quoi? Que l'Immaculée Conception, elle a découvert qu'elle avait une vocation, qu'elle était, qu'il y avait dans sa vie une dimension spontanée, surnaturelle, en plénitude à sa vie sur la terre. Attends, elle est plénitude de grâce ou elle n'est pas plénitude de grâce? Je veux dire, dans son Immaculée Conception. Est-ce qu'elle est lucide là-dessus? Ou est-ce qu'elle part en aveugle? Est-ce qu'elle est complètement prise par l'esprit du monde et c'est qu'elle dépêche originelle ou pas? Alors, il y a une sponsalité qui commence dans l'innocence. Mais c'est vrai qu'elle se réalise dans l'ouverture des portes de la Jérusalem glorieuse, dans l'union hypostatique désirée de Jésus. Hein. C'est vrai qu'elle a transformé le corps de sa moitié sponsale et a fait du corps de sa moitié sponsale l'origine de sa propre sponsalité dans la plénitude où elle s'inscrit immédiatement dans l'au-delà de l'unité des deux comme participation au mouvement éternel d'amour de sa vie. Avec lui et en lui. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Regardez, il y a une chose. Je vous fais remarquer une chose. Parce qu'à force de parler de tout ça, finalement, ça finit par nous être familier. C'est pas du tout inutile de parler beaucoup, d'exprimer ces mots d'enseignement infaillible. Parce que petit à petit, ils nous deviennent familiers, vous savez. Ça rentre. Ça rentre. Et ça finit par réaliser ce que ça signifie. Ce qu'explique Saint Paul, si vous entendez pas par des paroles, si vous l'entendez pas, vous ne le touchez pas. Parce que le toucher est intérieur, il s'incarne. Et la parole pénètre, elle réalise ce qu'elle signifie, et elle réalise la création dans l'incarnation, l'intériorité du corps, ce que cette parole signifie. Donc la foi, elle réalise ce qu'elle signifie, et l'enseignement infaillible de l'Église aussi. Ça va? Donc, d'en parler beaucoup, de le retire, à condition de ne pas inventer. Voilà, on a une nouvelle idéologie, quoi. Non, c'est pas une nouvelle idéologie. C'est l'enseignement, c'est l'Immaculée Conception, l'Assomption, la sponsalité. Après l'Assomption, le grand enseignement de l'Église, c'est la sponsalité. Et la grande manifestation qui a suivi la sponsalité, c'est quoi? C'est l'origine, dans l'intériorité du corps originel, de l'innocence divine, dans chaque être humain, 1998. Ces deux derniers grands déploiements de la doctrine infaillible du Saint-Père, si je puis dire. Et c'est toujours les derniers qui sont les plus importants. Avec ces deux derniers, on peut aller vers l'Assomption de Marie. Et elle écoule en nous ce torrent de diamants originels de la Très Sainte Trinité, tout à fait elle-même dans le corps originel de tous les hommes, qui s'écoule à nouveau en nous par son Assomption, sa maternité, sa royauté. Voilà. Et de là, on peut du coup retrouver avec ce corps spirituel nous, très bien, l'Immaculée Conception dans la nature humaine tout entière à travers nous. Vous avez le résumé de ce qui se passe pendant les 22 minutes de l'avertissement. Et ça se passe en 4 étapes, vous avez bien compris. C'est pour ça que ça fait 22 minutes. La première étape, c'est qu'il faut être dans l'innocence. Il faut être dans l'innocence, il faut être dans l'amour paternel de Dieu. Il faut être dans l'ouverture du corps originel. Il faut accepter d'être là, dans l'adoration enfoncée, et d'être présent dans le Saint des Saints. Alors du coup, les trois autres étapes peuvent déployer 777 fois leur fécondité pour toute la terre. Et ça, c'est une chose qui n'est pas difficile, vous savez. Je sais bien que ce n'est pas ce qu'on vous dit à la télé, donc on n'a pas l'habitude. Et dans les chats non plus, dans les tweets non plus. On ne trouve pas ça. On ne trouve pas ça. Vous ne trouverez pas. C'est c'est pas dans les tweets, c'est pas non plus dans le Facebook. Tu peux discuter en Facebook 5 heures par jour, jamais tu pourras trouver ça. Non, même pas dans le Facebook de BDV.
D'un innocence pour être dans la disponibilité. Un, il faut être dans l'innocence.
Pour retrouver notre corps originel. Hein, dans l'innocence primordiale de notre corps. Et si on ne le retrouve pas en plénitude, on s'engloutit dans l'innocence originelle de Jésus. Le premier instant de son incarnation, 9 mois avant Noël, on s'engloutit dans cette innocence divine originelle et on conjoint l'innocence divine originelle, c'est-à-dire la memoria dei de Jésus, la memoria dei de l'innocence divine hypostatique, en pleine lumière de gloire de ces toutes premières secondes de Jésus, on l'engloutit à l'intérieur de notre innocence divine originelle pour retrouver notre innocence divine originelle telle qu'elle est, portée par le Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu était posé sur lui, pour Saint Jean-Baptiste. Le Verbe de Dieu était posé sur lui. Comme pour Siméon Anachi, pour la circoncision et pour la consécration de Jésus au Temple, l'Esprit Saint était posé sur lui. Et demain, hein, posé sur lui. La mission invisible du Verbe de Dieu et la mission invisible du Saint-Esprit. Posé sur lui. La mission invisible du Verbe de Dieu et la mission invisible du Saint-Esprit qui nous porte. Pour nous, les chrétiens, c'est hyper facile, hein. Parce qu'on vit de l'intérieur de la mission invisible du Verbe de Dieu dans la nature humaine tout entière et de la mission invisible du Saint-Esprit dans la Jérusalem glorieuse finale tout entière. Et on conjoint les deux et aussitôt on retrouve notre innocence divine originelle, notre liberté à l'état pur. Et notre corps reprend sa signification intérieure. Et donc les productions tachyoniques rayonnent l'ensemble de notre univers. Celles qui sortent de notre corps. Bon. D'accord. Et ça, il faut retrouver la signification originelle de notre corps. Le reprendre la plénitude de l'innocence divine, de l'incarnation de notre vie, notre identité. Il faut accepter ce que nous sommes. Je veux dire substantiellement, dans l'acte pur, dans l'essai primo cadit intellectus et. L'être en acte, pas l'être en puissance, pas l'être vers sa perfection. L'être est créé par Dieu. L'acte créateur de Dieu se termine à quelque chose de parfait. J'ai été avec ma liberté en direction d'un monde de déchéance, d'un monde de péché originel. Je savais que je le faisais, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je l'ai fait quand même librement. Bon, plus ou moins, hein. C'est là qu'il y a une différence entre Saint-Joseph et nous, hein. Et puis certains autres qui vont jusque-là, quoi. Bon, vous ici, vous allez dans le monde du péché originel à peine, quoi. À peine. C'est pour ça que Saint-Joseph, ça vous parle beaucoup. À peine. Et on demande pardon après, oui. Ça c'est beau, ça. Ni cette innocence divine. Et regardez, quand on dit la messe, il y a un truc qui m'a frappé, j'ai célébré la messe avec vous ce matin. Et puis on dit, Jésus, épiclèse, les offrandes sont présentées, elles se soulèvent comme ça. Vous n'avez pas vu, hein, ça se lève. Comme un aéroglisseur. L'hostie n'est pas encore consacrée. Et à un moment, Jésus prend cette offrande qui incorpore de l'intérieur par la lumière enveloppante et intégrante toutes les Eucharisties célébrées jusqu'à aujourd'hui. Dès qu'il y a que l'épiclèse, il y a la présence réelle des Eucharisties présentes jusqu'à aujourd'hui. Mais il n'y a pas encore la transsubstantiation. Et puis, Jésus prend le pain, qui prédié comme pater et tout. Accepit panem. C'est vrai qu'en français, ça ne marche pas. Qui prédiez comme pater et tout. Avant. Qui prédiez. Avant. Qu'ils ne viennent dans une chair passible. Donc avant son incarnation. Qui prédiez. Vous avez déjà été à la messe? Avant qu'ils ne prennent possession de son corps passible. Qui prédiez. Quam pater et tout. Il brille le pain. Il leur rendit grâce. Il prend toutes les offrandes eucharistiques de tous les temps et de tous les lieux. Et il va s'incarner avec ça. Il rendit grâce. Il le bénit. Il le donne à ses disciples en disant, prenez. Prenez et mangez-en. Tout ceci est mon corps. Et l'incarnation primordiale de Dieu se fait à ce moment-là. Dans la chair immaculée de la lumière de gloire, de la première cellule humaine palpitante de Jésus, dans l'Immaculée Conception. Et de là, il part, perd son union hypostatique déchirée. Et si les gens n'ont pas compris, eh bien l'Église réaffirme, en tapant comme ça sur le clou, en fait, ceci en mémoire de moi, ceci se réalise dans la memoria dei humaine originelle de Jésus. Aussitôt, vous avez la présence de la croix dans la première cellule de l'innocence divine humaine de Jésus immolé. Et c'est dans cette première cellule, dans la prise de pleine possession de l'innocence divine, crucifiée de Jésus dans l'origine de son don, que se réalise la transsubstantiation, frères et sœurs. Et si nous n'avons pas pris pleine possession de notre propre puissance de liberté, de notre innocence divine, comment est-ce qu'on va pouvoir réaliser le mariage spirituel eucharistique? Et donc la production pour le ciel et la terre du fruit du sacrement de l'Eucharistie. Et donc, voyez bien, il faut savoir, comprendre ce qui se passe dans l'innocence divine originelle, dans l'embryon, quoi. Et en même temps, mettre en place la signification sponsale de notre corps masculin et féminin, à partir de là, 2 ans de discours du Saint-Père pour expliquer la signification sponsale de la solitude, c'est-à-dire de ça. À partir de l'innocence divine originelle. La signification sponsale du corps et la signification primordiale de l'innocence divine du corps, tout ça, c'est ce qui déploie notre reprise en main de la vie humaine embryonnaire, de la vie humaine tout court, de la vie humaine spirituelle dans la matière vivante intérieure du corps et dans le mouvement immortel éternel qu'il est en incarnation de son corps. Comme participation morale au mouvement éternel d'amour et à l'acte éternel de l'amour de Dieu. Quand l'amour de Dieu est un acte pur, nous y participons en retrouvant ça corporellement. Et c'est très facile à faire. Puisque vous voyez, il suffit que vous mettiez cette phrase, vous la répétiez jusqu'à ce que dans l'horizon, vous suppliez le soir quand vous endormez cette phrase-là. Oh, je voudrais quand même qu'elle réalise ce qu'elle signifie. Que je... Ah, je vois ça, mais oui, c'est ça. Ah, oh, mais oui, c'est ça. Ah, c'est ça. J'ai trouvé. J'ai vu. J'ai entendu. J'ai touché. Et après, vous le refaites 3 secondes par jour, 7 fois. À des moments différents, dans 9 mois, c'est fini. Vous êtes des fils du royaume de France. Vous faites partie de l'Israël de Dieu. Vous serez instrument de l'ouverture des temps pour la nature humaine tout entière. Les 10 rois d'Antichrist peuvent s'écraser. Hein. Ils ont intérêt à s'écraser, mais bien, bien. Ah. Ainsi, dans l'origine, par l'innocence divine de notre cas, qu'on peut retrouver quand on veut, on peut le faire revenir à l'état adulte quand on veut. Hein. Quand on veut. Rien de plus facile. Tu peux faire un acte d'adoration quand tu veux. Ça, c'est pas là pour l'intellect, agent. Tu peux faire un acte d'amour de l'autre quand tu veux. Tu t'envoles, tu es anéanti, tu n'existes plus. Tu es englouti dans l'amour extraordinairement grand, profond, lumineux et délicieux qui se trouve dans le cœur de quelqu'un d'autre que toi, parce que toi, tu n'es pas une source d'amour. Tu peux faire un acte d'amour quand tu veux. Avec ton cœur spirituel. Et tu peux faire un acte mémoria dei quand tu veux. La preuve, c'est que le génome est encore vivant en toi. Et l'enfant embryon, il peut faire un acte aussi de liberté originelle, de mémoria dei, quand il veut, parce que les cellules staminales de son corps embryonnaire sont encore vivantes dans le corps de sa mère, même 49 ans après son avortement. Il peut donc faire un acte de liberté dans l'accueil de l'échange et du don de participation dans son corps vivant, à travers ses cellules staminales embryonnaires dans le corps de la mère. Et c'est ce qui fait d'ailleurs d'eux les apôtres des derniers temps. Et le rouleau compresseur qui va laminer les 10 rois d'Antichrist. Et puis l'Antichrist lui-même, d'un seul coup, ça se passera en moins de 15 secondes. Mais le premier coup sera porté en une demi-heure. Et nous, ça nous est extrêmement facile de faire comme eux, de retrouver cette proximité extraordinaire de la perfection de notre corps, ainsi vivant de l'intérieur, de la présence créatrice paternelle de Dieu. On est indissolublement lié à l'amour de Dieu, du Père. Et on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni dans notre innocence, on est uni. Et on dit oui, on est inscrit dans le livre de la vie. Ah oui, bien sûr, on peut arracher cette inscription du livre de la vie. Il a donné à Lucifer par le péché, on est d'accord ? C'est vrai, par le péché mortel.
Est-ce que vous pouvez faire un acte de, avec la mémoire ?
Un acte de mémoire. Vous n'arrivez pas à faire un acte par la puissance spirituelle de la mémoria dei, c'est ça ? Ah. Ah oh ben ça, par exemple. Mais nous, vous n'êtes pas pris d'une immense compassion pour... cet acte de mémoire, cet acte, vous pouvez faire un acte d'amour, très bien, vous pouvez faire un acte de vie contemplative, voilà pour les deux premières puissances. Nous avons aussi une autre puissance de vie spirituelle qui passe à travers le corps, d'accord, et qui est le même acte que celui que nous avons exprimé en acquiesçant à notre existence, en notre entrée dans le monde, portée par l'illumination du Verbe de Dieu. Cet acte, vous l'avez exprimé. Toute puissance, comme dit saint Thomas d'Aquin, toute puissance spirituelle va vers son objet. Et ce qui permet à une puissance de se nourrir de son objet, c'est l'acte de cette puissance. Par exemple, j'ai des yeux. Alors, je peux voir. Et puis, je veux voir le visage de Jean-Noël. Je veux voir le visage. Alors, je fais un acte et je le contemple. Je contemple le visage de Noël. Mais l'objet de ma vision, c'est le visage de Noël. Et je fais l'acte de le contempler. Alors, j'ai actué la puissance de mon deuxième sens externe, qui est la vision. Donc pour chaque puissance de vie humaine, il y a un objet qui lui est propre et un acte qui lui est propre. D'accord ? L'objet de l'intelligence humaine, c'est la vérité tout entière. Lorsque je veux voir la vérité tout entière, mon intelligence humaine s'actue vers la vérité tout entière et elle fait un acte, elle veut voir Dieu, elle va vers Dieu. Comme le disait le pape Carole, elle est transformée comme ça en fusée du Saint-Esprit, en fusée qui pénètre en Dieu, qui le touche, qui le voit, qui l'assimile et qui en vit. C'est la vérité, la lumière tout entière de la vérité tout entière qui est l'objet de notre intelligence humaine. Pour l'amour, pour le cœur spirituel, la volonté, la voluntas, c'est-à-dire la partie purement spirituelle à travers le corps de notre capacité d'aimer, il y a un acte et son objet, c'est l'amour à l'état pur. Le bien, on appelle ça, le bien en soi. L'amour à l'état pur. Donc je veux aimer quelqu'un. Je suis capable, c'est une capacité, d'ouvrir, j'allais dire, toute mon être, toute ma vie, tout mon corps, toute ma chair, tout mon temps, toute mon éternité, pour la laisser derrière moi et venir m'engloutir dans le pur amour de quelqu'un d'autre que moi. Et je fais un acte d'amour. Et je m'abreuve de l'amour qui est en lui, et à ça nourrit mon cœur spirituel. Et si vous voulez vous entraîner à faire un acte d'amour, c'est très simple. Prenez votre pire ennemi et aimez-le. Là, vous êtes sûr que vous avez fait un acte d'amour. Et souvent, votre pire ennemi, c'est vous-même. Ah, eh bien, il y a troisième puissance spirituelle de vie, vous êtes d'accord, c'est bien ça. C'est la mémoire ontologique. La mémoire, ça je parle en philosophe, c'est la puissance native, naturelle de l'être humain. La périmémnésis d'Aristote, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Ça fait plusieurs 2300 ans qu'on est au courant. Donc, vous avez 2300 ans de retard. Je sais pas, vous cultivez les tulipes, là ou... c'est beau, la vie spirituelle de la fleur. Ouais, elle exhale son parfum. Bon, l'être humain a une liberté divine, une innocence divine, une liberté divine. C'est peut-être la seule des puissances qui soit identique à celle de Dieu, parce que la capacité d'amour de Dieu est quand même très 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 grande. La capacité spirituelle de lumière de Dieu, elles sont l'origine des deux processions. Et il n'y a pas de procession pour la liberté, pour la mémoria en Dieu. Pourquoi ? Parce que l'existence de Dieu et l'existence de l'homme dans l'essai, dans l'acte de l'existence, il y a à l'intérieur de l'acte d'existence une liberté, et c'est la même, celle de Dieu et la nôtre. Notre liberté originelle, dans la liberté du don, la seule et le cahier du don, c'est la même liberté. C'est pour ça que le pape dit, c'est une participation à l'acte éternel, le mouvement éternel d'amour de Dieu. Quand on exprime dans l'innocence, précisément, du corps originel, cette liberté à se livrer dans l'accueil intérieur lumineux d'amour et du don. Et on est capable de faire ça. Et donc, l'objet de cette puissance, ce n'est pas la lumière, ce n'est pas la vérité tout entière. L'objet de cette puissance, ce n'est pas l'amour parfait et pur qu'il y a dans le cœur de quelqu'un d'autre que moi. L'objet de la memoria Dei, c'est l'homme. Quand je me nourris et que je suis la nourriture de l'un, je suis libre. Engloutissez votre je suis dans les je suis de Dieu. Dans l'air, je suis de Christ. Cherche. Et c'est là qu'il a dit, avec ça, avec cela, le pape, l'Église et les jeunes déclarent la guerre à cette culture de mort. Et quand il a dit ça, il a déclaré l'ouverture de la guerre eschatologique. C'était à Denver. C'est l'exercice de la mémoire. L'exercice de la mémoire. La jeunesse, le principe même. Là, ici, tu te nourris de l'indivisibilité que tu as avec Dieu quand il te crée. Ça va? Il y a une seule chose. Et son créateur crée en même temps dans l'un toutes les autres choses qui sont dans l'unité indivisible d'une liberté originelle vivante sur la terre et dans les cieux parfaites. Hein. Et donc il y a une unité entre l'inscription dans le livre de vie et ton inscription dans le temps. Cette indivisibilité-là nourrit ta mémoire ontologique. Et tu en vis, elle illumine, elle transfigure, elle fait, elle réalise, j'allais dire, la détermination de ta liberté parfaite dans l'ordre, donc tu la retrouves quand tu veux. Elle est indépendante des circonstances, indépendante du conditionnement. Tu es l'origine dans la conception de ton innocence divine originelle d'un viol. Eh bien, ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave que pour les gens qui sont dans des esprits cataleptoïdos somnambuliques. Ah, j'ai été blessé, vous comprenez. Ah, j'ai été blessé. Ma mère a été issue d'un viol. Alors il faut obtenir une guérison de ça, c'est affreux. Et la mémoire Yadéi t'en fait quoi? Oh, c'est affreux, je pense, je suis trop blessé. Ah, psychiquement, métapsychiquement, la blessure, d'accord. Et humainement, à dégager. Il n'y a même pas à s'en occuper. Il y a des délivrances qui s'opèrent comme ça dans l'ouverture du temps et la victoire est donnée sur... Ça s'appelle la destruction totale du mal. Et ça, c'est en notre pouvoir. La liberté du don, c'est une capacité extraordinairement puissante puisqu'elle nous conjoint à la liberté créatrice paternelle vivante de Dieu dans l'unité, l'indivisibilité de sa présence créatrice en toutes choses. Et elle m'établit comme vase communicant en toutes choses, dans l'un. Et je me nourris de l'un. Vous comprenez que ça, c'est un déploiement qui s'ouvre au jour de la cinquième de l'Apocalypse, dans la cinquième demeure de votre raison, hein. Dans votre raison, vous allez voir, paf, pouf, c'est la nature tout entière qui se trouve dans la liberté incarnée de votre oui, créée par Dieu dans la vie surnaturelle du mariage spirituel. Vous ne pouvez pas ne pas le voir. Hein. L'Immaculée Conception, elle le voit bien qu'elle a absorbé toutes les vibrations, toutes les énergies, toutes les perfections de toutes les natures humaines rassemblées de l'humanité ancienne, de l'humanité actuelle, de l'humanité future. Quand elle fait un acte de liberté, elle le fait assumant entièrement dans l'unité, personne en dehors de ce qu'elle fait. Toutes ces énergies qu'il y a de toute la nature humaine, de l'humanité passée, de l'humanité future, son immaculée conception n'a qu'une à cause de ça. Et j'ai capacité avec ma mémoria dit, c'est une puissance humaine, philosophique, naturelle, pas besoin d'être chrétien pour ça. Je suis capable de retrouver cette liberté d'innocence originelle. Je fais cet acte-là. C'est pas très compliqué, c'est un acte de mémoire. Je le fais revenir, je m'y enfonce. Vous voyez, ici il y a les deux, hein, c'est les hauteurs, les splendeurs et les profondeurs. Les trois ensemble, dans l'omniprésence et l'au-delà de l'omniprésence. C'est dans le principe que je trouve l'un et qu'il y a l'unité de l'un dans l'indivisibilité de l'accomplissement de tout. Et ça, je suis le recueillement spirituel de ça dans mon corps originel. C'est ça mon innocence divine originelle. C'est une puissance prodigieuse. Lorsque je retrouve cette vie spirituelle-là qui m'établit comme roi fraternel de l'univers, je me rapproche des embryons avortés. Parce qu'ils se rappellent parfaitement de ça. Je me rapproche d'eux. C'est ce qu'explique Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Là, je me rapproche d'eux. Et je vais les suivre. Ils sont mon exemple. Je cours derrière eux tant que je peux. Je m'enfonce dans l'un. Et ils sont peut-être 200 milliards, tout ce que vous voulez, d'accord, hein. Mais il y a un seul roi, hein. « Voilà. Faire des actes. Vous voyez, à chaque fois, pour nous les catholiques, c'est quand même hyper facile, parce qu'on a quand même la messe faite ceci en mémoire de moi. Il a bien fallu à un moment donné que le Verbe de Dieu, que Dieu, se saisisse en Marie de la signification sponsale de leur accomplissement dans la Sainte Famille. Et puis voilà. Et que le Verbe de Dieu se trouve comme ça, dans un genou, voilà, je sais pas, je veux dire, dans une cellule, quoi. Je sais pas, on peut pas. Aujourd'hui, c'est foutu pour les scientifiques, hein. On pourra jamais voir cette première cellule du Christ au microscope, hein, parce que c'est dans le passé, ça. On pourra pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on veut suivre l'enseignement du Saint-Père, de l'Église, pour dire, là, ici, quand il s'est investi au mouvement éternel d'amour, de sa toute-puissance incréée de Dieu avant la création du monde, lorsqu'il est rentré avant de pouvoir rentrer dans cette passivité du corps, un corps passible, un corps capable de souffrir, avant qu'il puisse y pénétrer, il prend le pas. Ce qui montre bien que son incarnation vient de la fin du monde, en Marie. Son incarnation vient de la fin du monde. Et descend jusqu'à Marie pour réaliser, à travers l'Eucharistie, pour réaliser l'incarnation de sa vie sur la croix. Et se la restituer pour aller à nouveau avec tous les hommes vers l'accomplissement de son origine. De son origine dans l'incarnation. Ça ne peut se vivre que dans la Memoria Dei. L'unité de tout ça. C'est la liberté de l'homme, c'est la liberté de Dieu, c'est la liberté de l'union hypostatique de Jésus. À force d'entendre la formulation des apôtres, hein, sur la doctrine de Jésus, du Verbe de Dieu qui s'incarne, qui prend chair, dans la matinée divine de Marie, à force, on finit par comprendre ce que c'est qu'un être humain. Et du coup, on est capable de recevoir, dans l'échange de l'accueil et du don, l'Eucharistie. Faites ceci en mémoire de moi. Hein? C'est ainsi qu'à l'origine, dans l'innocence divine, il n'y a pas de honte. Aucune honte. Il y a toujours l'acceptation de l'autre comme un don intérieur dans l'au-delà de l'unité des deux. Il y a toujours acceptation de l'autre comme don intérieur du mouvement éternel d'amour de Dieu. Comme don. Et donc, il y a la liberté du don, il y a l'acceptation du don qui se réalise dans l'au-delà du don, dans l'unité et la nudité du don en lui-même. La femme traduisez Marie, si vous voulez, mais aussi la femme dans la sagesse créatrice de Dieu avant le péché originel. La femme s'est découverte intérieurement. C'est une découverte. On découvre en nous ce que c'est qu'une femme. Je suis une femme, je découvre en moi ce que c'est que la femme. Quand on n'est pas dans la signification sponsale, on est obligé de bien recouvrir la femme avec beaucoup de voile. Voilà. On voit encore le rimmel, quoi, sur les paupières, mais... Bon, allez, on met une grille pour pas voir le rimmel. Mais quand on est dans la signification, on se découvre comme femme. On découvre en nous la femme. La femme se découvre, elle découvre ce qu'elle est. Et elle se retrouve elle-même, comme dans son propre don. Elle se retrouve virginalement elle-même, comme un don virginal, à partir du moment où elle est acceptée comme don dans son innocence divine, originelle, reçue comme telle dans l'acceptation du don. Je m'excuse, mais c'est admirable. Il n'y a pas une phrase qui ne soit pas complètement admirable là-dedans. Vous avez 5000 pages, il n'y a pas une phrase. Moi, je resterai 3 heures sur une seule phrase. C'est complètement géant. Elle est acceptée telle qu'elle est. Par l'homme selon sa féminité intérieure, dans la liberté de son don, dans toute son innocence, à travers son humanité, et se découvrant elle-même dans la signification de son don, se redécouvrant elle-même, elle parvient, selon sa féminité, à travers son humanité, à la profondeur intime de toute sa personne, et de profondeur intime, visible, lucide, libre, dans la liberté du don de toute sa féminité comme telle. Et à la, du coup, et par conséquent, à la pleine possession d'elle-même. Elle prend pleine possession d'elle-même comme femme, de la signification sponsale de son don. C'est une manière propre à la femme de mettre en place la signification sponsale de son, de sa vie, de son corps. Le fait de se retrouver elle-même dans son propre don, dans la signification sponsale, de l'au-delà de la nudité dans l'échange de l'accueil du don, est la source d'un nouveau don beaucoup plus profond qu'auparavant, d'un nouveau don d'elle-même. Cette prise de conscience accélère, approfondit, mais crée un monde nouveau pour la liberté d'un don beaucoup plus grand dans une féminité, beaucoup plus grande et une sponsorité beaucoup plus profonde, qui n'arrêtera plus jamais d'être nouvelle, plus profonde, d'abîme en abîme. Parce que, je ne sais pas, quand j'étais moine chez les cisterciens, je m'excuse de ce que je vais dire, mais à l'Erins, alors le père abbé m'a dit, voilà, je pense que les frères de Saint-Julien sont trop intellectuellement. Non, je pense que c'est important, père Patrick, vous irez travailler, je pense, au poulailler, je pense. Il y a aussi les lapins, là, je pense. Et avec le frère Grégaire, vous occuperez des lapins, je pense. C'est important. C'est pas l'intelligence qui donne la confiance dans l'expérience, je pense. Il dit, monsieur le père abbé, très bien. Alors, je m'étais jamais occupé des lapins.
Ça tombe bien.
Mais des poules. C'est pas la première fois de ma vie. Je vois des lapins. Oh purée. Je dis, mais c'est dingue. C'est la première fois que j'ai vu ça. J'ai couru me confesser. J'ai couru pour me confesser. J'ai couru. Confesser, c'est pas, faut voir la cadence, hein. Et c'est toujours la même chose. C'est incroyable. Vite, vite, confesser. Alors le père maître m'a dit, mais c'est pas un péché. Comment ça, c'est pas un péché? Moi, je sais pas, moi, j'ai jamais vu ça, moi. Moi, j'ai un frère jumeau, donc ça me choque. Depuis le début, on est deux en un. On a passé 9 mois à vivre dans l'innocence originelle du corps, dans l'échange, d'accueil du don, dans un amour de similitude. M'excuse. Moi, ça me choque, ça. Et ça me choque profondément. Mais par contre, quand je dis le truc du Saint-Père, ça me choque pas. Je trouve ça. Et donc, elle devient la pleine prise de possession d'elle-même. Le fait de se retrouver elle-même dans son propre don s'approfondit encore. Et du coup, sa féminité apparaît et se découvre dans une profondeur plus grande, dans l'incarnation de son corps et de la liberté d'échanger l'accueil du don d'elle-même à l'intérieur de l'acceptation de son don. Dans ce premier temps, dans ce premier acte de l'échange de l'accueil du don, l'homme est celui qui reçoit la profondeur virginale de la liberté du don, la signification sponsale de la femme. Et du coup, lui, le recevant, s'il veut assurer la réciprocité de l'accueil du don, il faut qu'il s'approfondisse de la même manière dans la signification sponsale de sa virilité. Et c'est comme ça que le don de la femme approfondit dans l'homme la virilité. Si l'homme n'est pas avide de sponsalité, ça vient de la femme. C'est la femme qui crée en l'homme les espaces de l'absorption de sa virilité pour l'échange de la qualité du don. C'est parfaitement exact, ça. Il y a certains confesseurs qui disent, je m'excuse, on peut rentrer dans des détails de ce genre. Parce que, ah ça, qu'est-ce qu'on a développé la théologie morale sur le mariage? Ça c'est permis, ça c'est pas permis, ça c'est permis. Ah oui, mais quand il y a ça, ben, toi tu fais comment? Bon. Et puis, très bien. Ouais. Oh ben écoute, t'as qu'à rester passif. Passif, tu demandes pardon pendant ce temps-là, quoi. Hein, puis, Et comme ça, voilà, t'as fait ton devoir, responsable conjugal, quoi, puis voilà. Moi, je suis jumeau, je m'excuse, mais ça me choque, ça. Je peux vous dire, j'ai jamais donné un conseil pareil hein, dans la confession, jamais. Hein. Non, mais faut pas être taré, non. Tu retrouves la signification virginale de la liberté de ton don. Et à ce moment-là, tu engendres dans ta moitié sponsale, dans l'échange de la qualité du don. Tu ne tiens pas compte. Tu engendres dans l'échange de la qualité du don, dans l'homme, sa virilité. Et du coup, il est bien obligé de constater, parce que n'oubliez pas que l'homme n'a pas la même manière de célébrer l'échange de la qualité du don que la femme. Il y a une signification sponsale totalement différente. Le vécu d'intériorité de l'échange d'accueil n'a rien à voir chez l'homme et chez la femme. Rien. Les femmes ne s'imaginent pas à quel point c'est différent. On n'est pas des PD. C'est pas un couple. On n'est pas des bœufs. Et le pape l'a même dit dans un avion. On n'est pas des lapins. Sous-entendu, c'est la signification sponsale du corps qui compte. C'est la sponsalité. Il a fait référence là à, justement, l'enseignement du pape Jean-Paul II. Il y a d'autres qui ont dit, le pape, il a dit dans l'avion, on n'est pas des lapins. C'est vraiment l'antichrist. Hein. Non, mais il faut voir la grégarité des interprètes. Interprétation. C'est la sponsalité. Le pape, il enseigne la sponsalité. Il dit, attends, c'est pas comme... Moi, je peux vous dire que c'est pas les lapins. Je dis, enfin, il a dit ça, c'est pas les lapins. Chacun reçoit comme il veut, hein, je veux dire. Voilà, mais c'est vrai. Et alors, ça engendre à l'intérieur de Dieu, ça engendre à l'intérieur de l'homme, de l'être humain, de masculin, une virilité. C'est ça qui est extraordinaire, je peux vous expliquer. Il l'explique, bon, mais en résumé, disons, pour faire plus court, ben, quand la femme, elle est virginale, quand elle se donne à travers son corps, hein, à l'intérieur de l'intérieur, elle se livre dans son innocence, elle s'engloutit dans l'un qui nourrit la liberté originelle de l'innocence divine originelle de sa moitié sponsale. Elle s'y engloutit, c'est du dedans hein, qu'elle réalise l'échange de la qualité du temps, comme femme, elle s'y abandonne, elle s'y donne, elle s'y perd. Elle est éperdument disparue dans l'innocence divine originelle de l'époux, ça va? Elle s'y habituait à faire ça par l'oraison. Elle sait ce que c'est. Et du coup, Dieu et elle, et la participation à l'amour au moment éternel de Dieu, engendre en lui la création d'un phénomène masculin, du corps spirituel normal d'un être humain avant le péché originel. Elle engendre en lui le fait que sa masculinité, donc, se recueille en lui-même dans l'un. Et du coup, toutes les énergies séminales du corps masculin se rassemblent dans l'un, sont absorbées, assumées et transformées en virilité. Et à ce moment-là, la lumière intérieure de sa virilité informe toutes les cellules vivantes de son corps et de ses organes, et de ses hormones, et de son intellect agent, et de son cœur spirituel. Et du coup, il découvre la signification sponsale de sa virilité et il reçoit l'autre, sa femme, dans les champs de la qualité du don. telle qu'elle est dans son don. Il découvre ainsi sa propre signification sponsale pour assurer l'échange de la réciprocité, de l'échange du don dans l'unité virginale et pourtant dans la différenciation sexuelle de l'unité totale des deux et dans l'au-delà de l'unité des deux. Cette découverte-là n'est pas honteuse. Veritatis splendor. Ah bah écoutez, en tant que confesseur, je vous demande de faire comme s'il n'existait pas. Laissez passer le rouleau compresseur et... Faire comme si n'existait pas. Non, mais... Pour reprendre possession, Épître aux Galates, chapitre 5, verset 25, la maîtrise de soi, la reprise de possession plénière de son signification intérieure, de la liberté intérieure divine. Vous voyez, une participation directe et sans voile au mouvement éternel d'amour de Dieu. C'est ça qu'il vient de dire le pape à l'instant, hein. Donc, enrichi du don de la femme dans sa personne, sa féminité, il s'enrichit encore en se donnant à son tour, car en se donnant à son tour dans la réciprocité du don, il y manifeste l'essence spécifique de sa masculinité, qui, à travers la réalité intérieure du corps et de la sponsorité masculine et féminine, disparu ainsi, atteint la profondeur, disparu dans l'unité des deux, atteint la profondeur intime de la possession de soi, grâce à laquelle il est capable d'être accueilli par la femme comme don dans toute la viridité de sa splendeur et de la liberté de son don. Alors la femme reçoit un homme dans la viridité intérieure d'une nature humaine normale. Et c'est la femme qui a engendré cela dans l'homme. Vous savez, c'est ce que les parents expliquent à leurs filles. Toujours, ils expliquent à leurs filles. C'est pas compliqué, les parents expliquent à leurs filles. Écoute, ma chérie, c'est très simple. Si tu as une relation avec un copain, un fiancé ou un mari, c'est très simple. C'est la femme qui est médiatrice. Si elle est superficielle, la relation sera superficielle. Si elle est pure, la relation sera pure. Si elle est virginale, la relation sera virginale. Et l'homme le sait très bien. On fait une soirée, quoi, on danse, tout ça, on fait des slows. Moi, j'étais jeune, moi aussi, hein, j'ai fait des slows. Hein. J'ai pas toujours été moine. Hein. La femme n'est pas capable de percevoir ce que l'homme perçoit. L'homme perçoit immédiatement la profondeur du don de la femme et son degré de profondeur dans la lumière et la liberté de son don. Si elle est superficielle, ça se perçoit, même si elle fait une hypocrisie effroyable, une manipulatrice magnifique, la cateau de pointe. Hein. Tu le vois tout de suite. Immédiatement. Je ne dis pas ça. Ici, ça n'arrive à personne. Tout le monde se trouve immédiatement dans la liberté du don, dans les profondeurs, hein, de la signification sponsale, de l'au-delà de l'unité des deux. Alors je termine ce petit paragraphe-là. C'est pour vous donner le désir de lire quand même l'enseignement du Saint-Père. Non, non. Moi, je préfère Jacques Lorgue. Dans la révélation, et il voit se révéler ainsi l'essence intérieure et spirituelle de la vérité de sa masculinité en même temps qu'avec toute la vérité de l'incarnation de son corps et de la différenciation sexuelle par laquelle il se retrouve lui-même à travers le don sincère de soi. Alors, ils s'approfondissent tous les deux dans l'échange de l'accueil du don. dans le théâtre prodigieux d'une spontanéité qui va toujours plus profondément dans la participation au mouvement d'amour éternel de Dieu, qui est spontanéité. Oui, vous voyez bien que vous entendez ici, dans l'enseignement du Saint-Père, qu'il faut prendre en main l'état dans lequel on est, dans la première cellule 9 mois avant la naissance, dans le oui, notre inscription dans le livre de vie et l'au-delà du temps, pour se livrer avec cette liberté-là, cette intériorité-là, cette puissance-là, cette à l'unité avec l'amour de l'autre, dans l'intériorité de la lumière qui illumine de l'intérieur la signification spontanée du corps de l'autre. Et dans cet échange de l'écueil et du don, de manière virginale, il faut mettre en place la signification spontanée du corps, à partir du corps primordial. Et ça, c'est humain de faire ça. C'est humain de faire ça. C'est pas du lapinisme. C'est humain. Je m'excuse, mais vous ne trouverez ça jamais dans le Coran. Vous ne trouverez jamais ça dans les théogonies égyptiennes et dans les cercles initiatiques. Dans les cercles initiatiques, vous trouverez des trucs qui caricaturent ça dans l'échange des énergies des deux. Voilà, en métapsychique, vous parlez en astral dans une espèce de spontanéité métapsychique. Vous rentrez, il y a des gens qui le font. On appelle ça le jama. C'est diabolique, hein, le jama. Ah, on se touche pas. Hein. C'est diabolique. C'est uniquement les énergies de l'un et de l'autre qui se conjoignent en astral. Et alors là, vous êtes dans une plénitude de jouissance orgasmique, métapsychique. Pas d'organe corporel, d'organe métapsychique. Le jama, c'est purement diabolique. C'est métapsychique. Un jour, le père Emmanuel me dit, dis-moi, là, moi, j'y comprends rien, ce truc-là, là. Il me dit, là, il y a un truc sur le jama, là. Tu pourrais pas me dire ce que t'en penses. Dis-moi, j'ai jamais. Dis-moi, moi, jamais. Ben, c'est pas jamais. J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Bon, ben, parce que tu regardes, ça a l'air intéressant. Alors, j'ai lu jamais. C'est lu ce truc. Oh. Oui, je préfère que tu sois au courant quand même. On ne sait jamais avec toi. C'est pas métapsychique. C'est pas une chasteté métapsychique. Hein. Vous savez, dans l'hindouisme, il y a la chasteté. Hein. Pour qu'on puisse faire de l'unité astrale, cosmique, en dehors de tous les temps, et dans l'enveloppement du temps. Et à ce moment-là, toutes les puissances sexuelles masculines et féminines sont complètement déployées. Complètement. Et comblées par Asmodée, qui est un pur esprit. Et vous ne pouvez le faire qu'avec une seule personne. Donc il y a une fidélité. Et on peut dire qu'il y a la chasteté, puisque les corps ne se conjoignent jamais. Donc vous voyez bien que la chasteté ne consiste pas en l'absence de la réciprocité de l'échange et de l'accueil du don dans l'au-delà de l'unité des deux en une seule chair. La spontanéité est virginale par essence, par nécessité, par procession aussi. Et par déploiement. Elle est spirituelle. Et ceux qui ont vocation à l'amour doivent faire de cet enseignement de responsabilité sur l'innocence, la pleine prise de possession de soi dans l'innocence du corps et la signification responsable de ce corps, le centre de leur vie, de leur comportement et de leurs actes. Je crois que c'est le 5 février qu'il avait dit ça. Non, c'était sûrement pas le 5, le 13, peut-être. Il doit se situer au seuil de l'innocence divine, dans l'échange de l'accueil et du don, et de la vie surnaturelle du Christ. Vous voyez, on se trouve comme ça, sur une ligne de crête, le seuil. Alors, il ne faut pas complètement... Il ne faut jamais revenir en arrière, parce que c'est toujours en nous. Mais il faut... Et il y a quand même la montagne céleste de l'Himalaya spirituelle dans le Christ Jésus notre Seigneur, qui nous permet de rester dans le seuil, dans une liberté d'innocence retrouvée avec lui, de la signification sponsale du corps de l'homme et de la femme, et de l'unité des deux. Toute vocation à l'amour doit faire de cette spiritualité, de l'innocence et de la signification sponsale du corps, le centre de sa vie, de son comportement et de son acte. Pas seulement les gens mariés. Ah ouais? Moi, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, je suis catho, alors bon, je vais faire comme dit Freud, hein, je prends le sécateur et clac, 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 clac. Oui, si tu peux pas faire autrement, c'est mieux, d'accord. Mais c'est pas la voie chrétienne. C'est bien, si tu veux, en attendant. Mais prends quand même 9 mois pour mettre en place la signification virginale de ton corps, ta virilité ou ta féminité. Hein. C'est vite fait. Hein. Ça va assez vite, je veux dire. C'est pour... On n'a pas besoin de 40 ans pour la mise en place de la signification sponsale du corps. Et la pleine prise de possession de soi dans la signification virginale, de l'échange de l'accueil du don en une seule chair, c'est vrai, c'est cette compénétration du corps intérieur, de la même manière du Christ, hein, avant qu'il ne vienne s'incarner pour prendre un corps passible, à l'instant où il le prend, il saisit l'hostie, il prie le pas. Ça y est, il est immédiatement dans l'échange de l'accueil du don. La même charité, exactement le même degré d'intensité de charité que celui qu'il a dans l'union hypostatique déchirée comme agneau de Dieu. Et voilà, et il opère donc. Faites ceci dans cette mémoire de ce premier moment d'innocence, dans votre innocence. Et réalisez donc avec moi la mise en place de la signification sponsale de votre corps originel. Je vous le redonne en moi, je vous le redonne à l'état pur. Je vous le redonne à l'état pur. C'est facile de mettre notre memoria Dei dans la memoria Dei du Christ. Voilà le premier fruit de l'Eucharistie. Lorsque on opère la transformation qui y correspond, qui réalise ce qu'elle signifie dans l'action de grâce qui dure 22 minutes, il ne faut pas longtemps, vous savez, hein, pour retrouver pleine possession de son innocence divine originelle dans la pleine prise de possession de la nature humaine dans le Christ, dans son innocence divine et crucifiée, triomphante. Et ça, ce que je vous dis là, c'est la spiritualité des enfants avortés. C'est comme ça qu'ils vivent la croissance en sagesse, en vie co-rédemptrice, au même niveau de splendeur de fécondité universelle que Marie, dans son immaculée conception, alors qu'ils sont sous l'autel. Et nous, nous les accompagnons avec le cœur du roi, parce que nous les aimons. Et lui, il les aime. Et nous aimons celui qui les aime. Et on trouve ensemble, en ce cœur-là sacré, palpitant d'amour, l'étendard du roi. L'étendard, vous voyez, la splendeur de la vocation du nouvel Israël de Dieu, celui qui... Au bout d'un certain temps, quand les temps sont accomplis, va être assumé pour que de cette assumption émane l'ouverture des temps. Est-ce que vous avez des questions à poser? Sur des détails. Comme dirait Père Manel, en gros ou en détail? Oh, moi, je vais vous dire, moi, avec le bon Dieu, j'ai toujours été d'accord avec lui. Je lui donne tout en gros. Mais je fais comme Serge, je reprends tout au détail. Ah, c'est vraiment, je donne tout. Hein. Ah, je donne tout. Je reprends tout au détail. En gros ou en détail? Vous avez des questions en gros ou en détail? Bon, s'il n'y a pas de questions, c'est très bien. Alors, ça veut dire que tout a été dit. Tout n'a pas été dit. J'ai fait juste un petit extrait.
Une page.
Ici, un petit extrait. Là, là. Là, je vous ai lu ça. Je vous ai lu ça. Mais vous pouvez faire pareil.
Il y aurait trop de questions.
Il y aurait trop de questions.
Il y a trop de choses. Mais comment on fait pour approfondir du coup la mise en place, enfin, la responsabilité quand on est non marié?